sa fin, mais est-ce qu'on ne risque pas plutôt d'aller vers l'escalade, dit Sam Horowitz?
Avec l'Iran, je crois qu'on a encore quelques jours de frappe, quelques jours de combat, mais pas plus, peut-être une semaine ou deux. Et le problème, je trouve que le problème majeur, c'est le Liban. Si le gouvernement Netanyahou décide de lancer vraiment une opération terrestre d'envergure majeure, alors là, on risque de se trouver dans la boue libanaise
de s'embourber, s'embourber dans un nouveau conflit. Merci à vous, Nitzan Horowitz, d'avoir été en ligne avec nous, au plus près de la frontière libanaise, on l'a compris. Merci encore.
Merci, messieurs, au revoir.
Entretien avec Arnaud Pontus sur RFI.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions dans Priorité Santé sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
quand les enfants tombent malades, gérer l'inquiétude des parents.
Demain,
traumatisme, AVC, réparer les lésions cérébrales.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Emmanuel Bastide convie 8 milliards de voisins à témoigner sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
comment repérer la négligence dans nos vies? Quelles sont les conséquences de nos inattentions?
Demain,
faut-il parler d'argent aux enfants? Et si oui, quelle éducation financière en famille et à l'école?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 6 11 80 41 89.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce mercredi sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Nous sommes très fiers que RFI soit en tête du classement des médias audiovisuels qui parlent d'écologie en France. Car ce n'est pas simple de convaincre les rédactions. Alors comment parler d'écologie dans les médias? Élément de réponse avec nos invités, tous concernés.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Dakar et Lomé. Édouard Dupénoat a un congrès annoncé au Sénégal pour le parti PASTEF.
Oui, la formation au pouvoir qui affiche sa volonté de s'implanter plus profondément encore dans le paysage politique. Il a fui le Soudan, elle a quitté l'Éthiopie, mais aujourd'hui, il faudrait encore s'échapper du Liban. Reportage dans quelques minutes avec ces réfugiés qui se retrouvent de nouveau sous les feux de la guerre. Visite d'État de Bola Tinubu au Royaume-Uni. Ça faisait près de 40 ans qu'un déplacement d'un tel niveau d'importance n'avait pas eu lieu pour un président nigérian. Opération apaisement au Togo. 4 ministres viennent expliquer à la presse que le pays n'est pas la proie d'un réseau d'enlèvement, malgré le vent de panique qui agite les réseaux sociaux depuis janvier. Des disparitions, oui certes, mais ce sont bien souvent des fugues, et plus des trois quarts d'ailleurs ont été résolus. En Côte d'Ivoire, priorité pour la transformation locale de l'anacarde. La fenêtre d'achat prioritaire des industriels ivoiriens est rallongée d'une semaine.
Et puis le dossier de ce journal en Tunisie.
Où le musée du Bardo fait salle comble jusqu'à 23h, où les théâtres de Tunis font le plein eux aussi, puisque le Ramadan, c'est également une intense période culturelle.
Le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, choisit de serrer les rangs.
Une campagne d'adhésion, la possibilité de s'encarter ou de marquer son soutien. Le parti dit vouloir s'ancrer et rentrer encore plus dans le paysage institutionnel. Nous sommes 10 jours après l'Assemblée Générale de la coalition Diomaye président. C'est proche du chef de l'État qui avait soutenu sa candidature il y a 2 ans. Une assemblée que beaucoup ont vue alors comme un nouvel accroc dans le tandem avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Le PASTEF qui entend justement lui aussi préparer les élections locales de 2027. Et avec donc cette grande première en 12 ans d'existence, Léa-Lisa Vesterhoff, l'organisation d'un congrès.
Depuis sa création en 2014, le congrès du 6 juin prochain sera le premier. Une étape cruciale dans la consolidation et l'institutionnalisation du PASTEF, peut-on lire dans le communiqué publié à l'issue de la réunion des membres du Conseil national. Une étape importante aussi en vue de la tenue d'élections municipales et départementales en 2027. Et alors que le PASTEF est au pouvoir depuis 2 ans, secoué depuis 6 mois par le différend qui oppose le chef du parti Ousmane Sonko au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Avec ce congrès, l'objectif est donc de remobiliser, serrer les rangs, éviter les divisions et gagner un maximum de nouveaux membres, concède un cadre du PASTEF joint par RFI. Pour cela, une commission chargée de superviser la vente et la distribution des cartes de membres du PASTEF a été créée. Elle doit démarrer début avril avec des cartes vendues 1 000 francs CFA au Sénégal, 20 euros en Europe et 20 dollars dans le reste du monde. Objectif, atteindre 1 million d'adhérents avec une politique d'ouverture aux alliés, assure ce cadre du parti, c'est-à-dire la possibilité de devenir membre du PASTEF en tant que simple sympathisant, sans obligation d'être militant. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Entre le Sénégal et le Maroc, le procès en appel des 18 supporters poursuivis pour des faits de hooliganisme après la finale de la CAN s'est ouvert hier à Rabat. Mais l'audience a duré moins d'une demi-heure avant d'être renvoyée au 30 mars à la demande des avocats des accusés. Des frappes israéliennes sur Téhéran cette nuit. Encore, l'ambassade des États-Unis à Bagdad, prise pour cible hier, la guerre au Moyen-Orient entre dans son 18e jour et ne montre aucun signe d'apaisement. Le président américain a beau annoncer des contacts avec une demi-douzaine de pays différents, les violences demeurent toujours intenses. Illustration dans ce journal, au Liban, frappé cette nuit encore. Les ordres d'évacuation se succèdent les uns aux autres. On estime que 25% des Libanais ont déjà été contraints de fuir leur domicile, ou parfois d'ailleurs des foyers qui faisaient office de domicile, puisque pour les réfugiés de plusieurs pays africains qui eux-mêmes avaient fui la guerre, le cycle semble se répéter indéfiniment. Reportage de notre correspondante Sophie Guignon.
Sur les grilles de l'église Saint-Joseph du quartier de Monod, du linge sèche. L'institution jésuite accueille plus de 180 travailleurs migrants, dont 70 enfants. Le frère Michael Petro supervise leur accueil.
Malheureusement, la réponse d'urgence qui existe pour les Libanais n'a pas inclus les migrants. Il n'y a pas de refuge pour les migrants, c'est pour cela qu'ils sont là. Nous avons un enfant qui est en train de naître. Il y a une femme qui est arrivée enceinte dans notre refuge. Elle est en ce moment à l'hôpital en train d'accoucher. Et nous attendons deux autres naissances dans les prochaines semaines. On ne sait pas combien de temps cette guerre va durer, mais cette fois, j'ai l'impression que ce sera pire.
Ismaël Mahmoun vient du Soudan, pays aussi en guerre. Il travaillait comme cuisinier dans la région de Nabatillé, lourdement bombardée par Israël.
On est parti dans la nuit. On a marché pendant deux jours pour arriver ici à pied. On n'a pas de voiture. Là où on habitait, tout est détruit. Et même au Soudan, on ne peut pas y retourner. On pensait qu'ici, ce serait mieux. Mais en fait, c'est de pire en pire. Je suis abattu.
Alem Moulou, d'Éthiopie, espère, elle, quitter le pays.
Soit il faut nous aider, soit nous permettre de voyager dans un pays où ça va mieux. Moi, je veux pouvoir travailler et mettre mon enfant à l'école.
Pour l'heure, aucune mesure d'évacuation n'est prévue pour ces travailleurs migrants. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Et la rédaction numérique de la Radio du Monde est mobilisée pour vous faire vivre, vous faire comprendre aussi ce conflit qui dure depuis 18 jours ce matin dans un live que vous lisez sur RFI.fr.
Le président du Nigeria en visite au Royaume-Uni.
Et en visite d'État, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus haut niveau ou plus important en termes de protocole. Ça n'était pas arrivé donc depuis 37 ans. Bola Tinubu doit arriver à Londres aujourd'hui. Il sera reçu demain par le roi Charles III avant une rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer. Londres et Abuja, qui sont et qui demeurent des partenaires commerciaux majeurs, Alexandra Branjon.
Cette visite du président Tinubu s'inscrit dans la continuité d'un partenariat conclu il y a 18 mois pour renforcer la coopération économique, migratoire et sécuritaire. Le Nigeria est le deuxième plus important partenaire commercial de Londres sur le continent. Les échanges commerciaux s'élèvent à plus de 9 milliards d'euros par an, soutenus par une forte augmentation des exportations britanniques de services et de technologies. Le Nigeria souhaite l'aide de Londres pour développer ses infrastructures et a déjà obtenu une garantie de prêt pour un projet de réhabilitation de ses ports d'Apapa et de Tinkan près de Lagos. Les deux pays souhaitent également renforcer leur coopération militaire, formation, échange de renseignements, et ce alors que le Nigeria est confronté à une insurrection djihadiste croissante. Le mois dernier, plus de 150 civils ont été massacrés dans l'état de Kwara lors d'attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram. Pour l'économiste Adé Adéfeko, le maître mot de cette visite est la réciprocité commerciale. Le Nigeria, explique-t-il, n'est plus un marché passif. Il tire parti de sa démographie et de son importante accélération économique pour attirer des capitaux industriels britanniques.
Le Nigeria, où la police a communiqué il y a un peu moins d'une heure sur les attaques survenues hier soir à Maïdougouri. 23 morts et 108 blessés selon le porte-parole de la police, des explosions survenues dans la capitale de l'état du Borno dans le nord du pays. Une heure environ après la rupture du jeûne et alors que cette ville n'avait plus connu d'attaque de la sorte depuis près de 5 ans. Radio France Internationale, 6h bientôt 38 à Lomé. Et les autorités togolaises qui essayent d'apaiser la vague de crainte qui se répand essentiellement en ligne depuis 2 mois. Des dizaines de cas de disparition jugés inquiétantes, essentiellement des jeunes, au point de faire enfler une rumeur sur un réseau d'enlèvement. Lomé avait mis en place une commission d'enquête spéciale qui a rendu ses conclusions d'abord la semaine dernière au Conseil des ministres. Et puis 4 de ces ministres ont ensuite répondu à la presse. Il semble donc, Magali Lagrange, que tout cela soit uniquement une accumulation de faits divers isolés.
Vive émotion sur les réseaux sociaux togolais ces dernières semaines. Des cas de disparition inquiétantes, notamment de jeunes, sont relayés. Photos à l'appui, noms et circonstances. Fin janvier, les autorités togolaises se saisissent de la question. Commission d'enquête, numéro vert, le 10-14, pour signaler les situations suspectes. Selon les ministres qui ont fait un point d'étape, aucun élément ne permet à ce stade d'établir l'existence d'un réseau criminel structuré d'enlèvement. 102 cas ont été signalés, la plupart dans le Grand Lomé. Sur cette centaine de personnes, 86 ont été retrouvés, en majorité des mineurs. Selon les autorités, la plupart sont liés à des fugues ou des départs volontaires. Un cas d'enlèvement présumé fait toutefois l'objet d'investigations. Les autres personnes sont toujours recherchées. Plusieurs organisations togolaises de défense des droits humains que nous avons contactées affirment ne pas avoir été saisies récemment sur ce genre de cas. Tout en appelant à un usage responsable des réseaux sociaux, le gouvernement togolais détaille les mesures prises, base nationale, des personnes disparues, renforcement des patrouilles, du contrôle des flux migratoires, ainsi qu'une sensibilisation au danger des promesses de gains faciles.
Magali Lagrange, un mot de diplomatie avec ce sommet tripartite. Hier à Conakry, entre les présidents guinéens, sierra-léonais et libériens. Objectif discuter, tenter d'aplanir les tensions et les incidents enregistrés ces derniers jours aux frontières entre la Guinée et ses deux voisins. Les trois chefs d'État s'engagent à promouvoir la paix et la stabilité pour une gestion pacifique de ce différend. En Côte d'Ivoire, la campagne de l'anacard se déroule sous des cieux bien meilleure que celle du cacao, hormis des pluies un peu précoces qui ont gâté les premières récoltes. On apprend que le CCA, Conseil Coton Anacard, annonce une mesure pour favoriser les transformateurs de ces noix de cajou. La période pendant laquelle ils sont prioritaires sur l'achat de noix brutes a été prolongée d'une semaine, Binta Diagne.
Cette mesure répond à un souci, celui de sécuriser l'approvisionnement des transformateurs ivoiriens, indique une source au sein du Conseil Coton Anacard. Pour l'heure, le CCA évoque un très bon démarrage de la campagne avec un prix bord champ respecté et un produit régulièrement enlevé des mains des producteurs, poursuit cette source. Côté transformateur ivoirien, cette mesure est perçue comme une bouffée d'oxygène. Cela va nous permettre de prendre une avance, commente un responsable du groupement des transformateurs de Côte d'Ivoire, car les objectifs sont élevés. Le gouvernement mise sur 700 000 tonnes d'anacard transformées au niveau local. Seule ombre au tableau, les agriculteurs affirment constater une baisse de la production. Les statistiques ne sont pas encore disponibles, mais l'objectif d'1,5 million de tonnes sera difficile à atteindre cette année, reconnaît un producteur. Cette baisse est liée, poursuit ce producteur de Boaké, à des pluies précoces survenues en janvier et qui ont perturbé l'anacardier. Conséquence, la première récolte n'a pas été bonne. Les regards sont désormais tournés vers la seconde récolte d'anacarde qui s'achève d'ici la fin du mois d'avril. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En Tunisie, le ramadan devient un vecteur de la transmission culturelle. Edouard, on en parle dans le dossier de ce journal.
Et ce n'est pas une impression d'ailleurs, c'est une politique publique tout à fait assumée par les autorités tunisiennes. Ainsi, par exemple, le ministère des Affaires culturelles et l'agence de mise en valeur du patrimoine se sont mis d'accord pour qu'une vingtaine de musées restent ouverts jusque très tard le soir pendant ce mois de jeûne et de prière. Et ça fonctionne. Reportage RFI Lilia Blaise.
Au musée du Bardo, à Tunis, les galeries sont remplies de monde un vendredi soir à 22h. Du jamais vu pour Émir, 23 ans, étudiant en informatique venu avec ses amis.
Une fois, je suis venu en journée, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que là, après la rupture du jeûne, il y aura forcément du monde. Ça force les gens à changer leur routine.
L'objet du quotidien de mise en.
Devant une mosaïque, Hamza et Saddam, médecins, s'extasient avec ses petits-enfants.
Parce que l'éclairage est totalement différent. Le matin, c'est un peu plus tamisé. Là, le soir, il est beaucoup plus éclairé. Non, c'est sûr.
Une marche digestive au milieu des 3000 ans d'histoire de la Tunisie, mais aussi un moyen pour des scolaires d'accéder à la culture autrement. Salwa Slama, enseignante, est venue avec des groupes d'enfants des quartiers populaires d'El Omran et de cité Intilakra.
Ils demandent toujours où est le musée car ils ne sont jamais venus le visiter. Donc c'était vraiment l'occasion. À la fois l'expérience de la sortie nocturne et leur faire découvrir leur histoire.
À 23h, les portes se ferment, mais le côté festif et culturel de la nuit se poursuit pour beaucoup de visiteurs, car les soirées ramadanesques durent souvent jusqu'à l'aube. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et tout cela ne concerne pas que les institutions poids lourds, comme le musée du Bardo. Les librairies, les cafés, les théâtres, tout un tas de lieux de rencontres et de culture s'animent le soir pendant ce mois de ramadan. Écoutez par exemple ce qu'en dit Cyrine Ghanoun. Elle gère le théâtre El Amra, en plein cœur de Tunis.
Ce qui s'est passé, c'est qu'après la révolution et avec la naissance un peu des soirées rupture du jeûne à l'extérieur, ça a commencé comme ça avant d'aller vers les spectacles. Avant, on se rappelle, on pouvait faire la rupture du jeûne que chez nous. Et puis ça a commencé un peu les restos, les bars, les hôtels et tout. Et c'est là où ils ont commencé à faire les soirées. Alors c'est vrai, les gens ont tendance à aller vers des spectacles musicaux, religieux, de grande échelle. Mais ceci étant dit, n'empêche que les petits formats ont leur place, beaucoup moins de monde, mais ils ont leur place dans des théâtres comme les nôtres, où la jauge est de 200 personnes. Donc finalement, le Tunisien, même s'il va sortir pour faire des courses de ramadan, il se laisse emporter par la vibe, donc rentrer dans un spectacle ou rentrer voir une animation. Et ça, je trouve ça assez intéressant.
Cyrine Ghanoun et cette vibe qui emporte les Tunisiens, dossier réalisé par Lilia Blaise. Tunis, oui, il est 7h44.
Merci à vous, Édouard Dupénois. Prochain journal dans un quart d'heure sur RFI. Et tout de suite, c'est notre revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la majorité présidentielle se fissure au Sénégal.
Oui, depuis plusieurs mois, le PASTEF, le parti au pouvoir, traverse une zone de turbulence. On assiste à une véritable fracture entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, pourtant issu de la même formation politique. Deux crocodiles dans le même marigot, résumé récemment Jeune Afrique. Pomme de discorde entre les deux hommes, rappelle le site panafricain, cette coalition Diomaye président montée précipitamment pour permettre à ce dernier de se présenter en 2024, alors que le PASTEF avait été dissous et qui pourrait bien constituer un outil de conquête du pouvoir dans le cadre des municipales début 2027 et de la présidentielle de 2029.
Le Point Afrique analyse la coalition qui a porté Bassirou Diomaye Faye au sommet de l'État, structurée autour du PASTEF, reposée sur un équilibre précaire.
Oui, un candidat par défaut, adoubé par un leader charismatique, empêché de concourir. À mesure que Bassirou Diomaye Faye s'est installé au sommet de l'État, la mécanique du pouvoir s'est remise en marche. Le candidat par défaut est devenu président. Il nomme arbitre et place ses hommes au cœur des institutions. Dépositaire des décrets de nomination et désormais au centre de toutes les décisions, il n'entend plus jouer les seconds rôles. Dans la crise actuelle qui oppose le chef de l'État sénégalais à son premier ministre, on a beau chercher la logique politique du maintien de la coalition Diomaye président, on peine à trouver autre chose qu'un calcul politicien, relève également le Point Afrique, à savoir disposer d'un instrument partisan capable, le moment venu, de marginaliser le Premier ministre et surtout préparer les prochaines échéances électorales.
Résultat, la scène politique sénégalaise vit une période surréaliste, s'exclame le site Séné+.
Un président de la République dont l'appartenance à son propre parti fait débat, un Premier ministre qui gouverne tout en affichant sa défiance envers son chef d'État et des militants qui réclament l'exclusion de celui qu'ils ont porté au pouvoir il y a 2 ans. Pourtant, malgré les déclarations incendiaires et les tensions palpables, aucune procédure d'exclusion n'a été officiellement lancée contre Bassirou Diomaye Faye, une retenue qui n'a rien d'accidentel, en effet, précise Séné+. Exclure formellement le président de la République serait un acte politique d'une violence inouïe qui cristalliserait définitivement la rupture et rendrait impossible toute réconciliation future. Cela transformerait également Diomaye en victime et renforcerait sa légitimité à construire une alternative politique autour de sa coalition. Finalement, relève encore le site sénégalais, Diomaye tente de consolider sa coalition pendant que Sonko restructure le PASTEF. Cela explique pourquoi aucun des deux camps ne souhaite précipiter une rupture formelle. Chacun a besoin de temps pour construire son appareil politique en vue des batailles électorales à venir.
Et alors, l'opposition dans tout ça?
Eh bien, elle pourrait profiter de cette fracture au sein du parti majoritaire. Finalement, non. L'impossible unité, titre Wolf quotidien. Chacun des ténors de l'opposition mène ses activités en solitaire. solo, constate le quotidien dakarois. Maire de Dakar récemment déchu, Barthélémy Diaz est dans une tournée nationale de placement des cartes des membres de son mouvement. Au même moment, Thierno Alassane Sall, qui se trouve dans un combat frontal contre Pastef, enchaîne les conférences de presse qu'il organise en solitaire. Et puis Macky Sall et ses camarades, après la dissolution de Beno, font cavalier seul.
Enfin, plusieurs sites d'information du continent, notamment CNews, Sénégo, le courrier de l'Atlas ou encore Financial Afrique, pointent la victoire de Bali Bagayoko, élu maire avant-hier de Saint-Denis, au nord de Paris.
Oui, le Malien Bali Bagayoko, élu maire dès le premier tour, s'exclame CNews, d'origine malienne. En effet, Bali Bagayoko a grandi et fait ses études en France avant de rentrer en politique dans les rangs de LFI, la France Insoumise. Avec un peu plus de 50% des suffrages, il s'impose dès le premier tour à Saint-Denis, cette commune d'environ 150 000 habitants, la deuxième plus grande ville d'Île-de-France derrière Paris, note CNews. Et Financial Afrique de s'interroger, Bali Bagayoko, un Obama français en devenir.
Frédéric Couteau, merci à vous. Dans une demi-heure, la revue de presse internationale, vous nous parlez des Européens qui ont dit non à Trump.
Oui, hors de question pour les Européens d'être pris au piège dans la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l'Iran. C'est ce que constate la presse qui s'interroge en même temps, nous le verrons tout à l'heure, sur la suite du conflit.
Rendez-vous à 8h15.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
De nouvelles frappes sur Téhéran. Il y a une demi-heure, notre correspondant dans la capitale iranienne nous racontait une nuit de frayeur entrecoupée du bruit des explosions autour de son appartement. L'Iran, où ce mardi, les gardiens de la révolution ont annoncé l'arrestation de 10 espions étrangers. Ce sont les termes employés. Et puis les pays du Golfe, également visés par la riposte iranienne. Une personne est morte ce matin après la chute de débris de missiles interceptés à Abu Dhabi. Le détroit d'Hormuz, lui, est toujours paralysé. Les prix du pétrole s'envole, le baril de WTI a augmenté de plus de 5% et le Brent, lui, a bondi ce matin de 4,67%. Dans l'actualité également, le Congo-Brazzaville, où on attend toujours les résultats de la présidentielle de dimanche. Depuis, téléphone et internet sont coupés pour une grande partie des habitants de la capitale. La situation n'était hier en fin de journée toujours pas revenue à la normale. 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria. Bilan annoncé ce matin après ce que le porte-parole de la police présente comme des attentats suicides survenus hier. Et puis ces déclarations de Trump sur Cuba, également à la une ce matin. Le président américain a dit hier croire qu'il aura l'honneur de prendre Cuba et a parlé aussi de libérer le territoire sans plus de détails. C'est une technologie extrêmement utile aux habitants des zones où la couverture web n'était jusqu'alors pas assurée. Et Starlink, le système de connexion Internet par satellite du milliardaire américain Elon Musk, est de plus en plus répandu sur le continent africain. Seulement voilà, en Afrique, les groupes armés utilisent aussi ce système et c'est un véritable trafic qui s'organise, comme nous le décrit ce matin notre grand invité Afrique, Fiacre Vidjininou, chercheur associé à l'Institut Egmont de Bruxelles. Il répond aux questions de Charlotte Hydrac. Bonjour Fiacre Vidjininou.
Bonjour Charlotte Hydrac.
Comment ça fonctionne un kit Starlink et combien ça coûte ?
C'est très simple, un kit Starlink, c'est une antenne que vous reliez à un émetteur de signal Wi-Fi, vous le déployez et puis c'est parti sur une zone dégagée. Vous avez la connexion à peu près dans les 5 minutes qui suivent. En Afrique de l'Ouest, en tout cas pour ce que je sais, au Bénin, au Niger, c'est entre 350 et 400 000 francs CFA, environ 600 euros.
Et à quelle fin les groupes armés en particulier utilisent-ils cette technologie ?
Pour ce qu'on a pu documenter, c'est que essentiellement ils essaient d'échapper au circuit de suivi des communications mises en place dans les pays par les forces loyalistes qui essaient de contrôler par ces différents systèmes de décryptage de communication, les appels ou via les messageries même dites cryptées.
Et donc ça permet à ces groupes de faire de la coordination, de la communication interne, de la propagande également ?
C'est utilisé à toutes ces fins-là que vous venez de citer. Vous pouvez alors communiquer entre les différentes équipes sur le terrain. Déjà en juin 2025, on l'a documenté avec le GNIM et le IGS au Mali. qui ont fait des offensives coordonnées sur les trois fronts simultanés, le camp de Boulkessi, l'assaut de Tombouctou et l'assaut de l'aéroport. La coordination des équipes n'a été possible que grâce au système de communication par messagerie cryptée. Après, de n'importe où, ils peuvent envoyer des vidéos sur leurs différents sites grâce toujours à cette connexion.
Vous avez cité le JNIM, le IGS. Comment ces groupes se procurent-ils ces kits Starlink? Comment ça circule?
Le plus gros du lot des kits Starlink qui sont vendus aujourd'hui dans le Sahel, ça vient du Nigeria. Il y a les douaniers, il y a les policiers ici et là. On leur glisse quelques billets de banque et c'est cela qu'ils vendent après à 400 000 francs CFA. Mais le gros du business en réalité, c'est après avoir vendu le kit, il y a la connexion tous les mois qu'il faut payer, l'abonnement. C'est ça le vrai business.
Concrètement, ça veut dire que les trafiquants contrôlent la connexion et facturent entre guillemets leurs clients.
Voilà, c'est-à-dire que eux, ils ont des cartes bancaires pour faire les réabonnements et c'est ça qu'ils vendent. Au lieu, par exemple, de 30 000 francs une connexion, ils peuvent vendre soit à 60, soit à 80 000.
Et en face, alors, que peuvent faire les États, les armées nationales, voire la CDAO?
Alors malheureusement, rien sur la connexion via satellite, c'est très compliqué de pouvoir faire des interceptions de signal, si ce n'est de collaborer avec Starlink. Si Spacis leur permet de couper par zone, ce qui quand même fait sourire, c'est que les pays du Sahel ont de tout le temps crié indépendance, indépendance, et aujourd'hui ils sont face à une situation qui les oblige à parler avec les Américains éventuellement pour trouver des solutions à cette histoire.
Plusieurs pays africains ont autorisé le déploiement de Starlink sur leur territoire. Il y a par exemple le Mali, le Niger, le Tchad également. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que cette légalisation permet d'atténuer l'utilisation du système par des groupes djihadistes, par exemple?
Je peux vous dire que quand même le Bénin ne l'avait pas autorisé, il suffisait de se localiser au Nigeria, par exemple, pour avoir une connexion. Hein. Mais le fait de légaliser l'utilisation de Starlink dans un pays ne permet pas en tant que tel de contrôler ce qui est transmis ou ce qui est reçu, pas du tout. Et Starlink est devenu, sans le vouloir, un acteur de ce conflit-là.
Et quel scénario vous imaginez pour les années à venir? Est-ce qu'on se dirige vers plus de régulation, une surutilisation accrue de cette technologie avec de possibles alternatives à Starlink, comme la constellation du groupe Amazon?
Il y aura beaucoup plus d'offres très prochainement avec cette nouvelle constellation proposée par Amazon. Qui dit beaucoup plus d'offres, les coûts vont sûrement baisser et il y aura une plus forte utilisation. Et du côté de la lutte contre le djihadisme, il va falloir réfléchir à trouver des solutions par rapport au contrôle de ce qui est envoyé et ce qui est reçu.
Merci beaucoup, Fiacre Vigininou.
Le chercheur associé à l'Institut Egmont de Bruxelles, Fiacre Vigininou, il répondait à Charlotte Hydraquin. Maman, on vous retrouve comme chaque matin et aujourd'hui vous nous dites qu'au Gondwana, la politique c'est plus fort que la guerre des étoiles.
Oui, un très très démocratique république, la politique c'est Star Wars et président fondateur est Dark Vador. La différence est qu'au Gondwana, il n'y a pas de Luke Skywalker, Han Solo ou Princesse Leia. En gros, pour ne pas que vous vous emballiez trop vite mes amis, un très très démocratique république, il n'y a pas le camp des gentils et celui des méchants. Il y a un seul camp et c'est la majorité présidentielle. Les Stormtroopers, c'est Sergent s'en fout la mort des autres avec les musclés de la brigade chicote et coups de Rangers dans les côtes. Donc quand tu regardes la vie politique, ici à Gondwana City, notre belle capitale, n'imagine pas être devant un blockbuster hollywoodien avec Happy End et tout. Hein. Par contre, je te conseille de bien t'installer dans ton canapé avec un grand bol de popcorn parce que le spectacle est mille fois plus spectaculaire qu'au cinéma avec effets spéciaux, cascades et un suspense haletant. Ici aussi, il y a de la science-fiction, il y a des vaisseaux spatiaux et même des satellites, plus précisément des satellites que tu ne verras dans aucun film de Hollywood, des partis politiques satellites. Dans le petit Gondwanais illustré, notre dictionnaire de chevet, il est écrit qu'un satellite est un corps céleste tournant autour d'une planète, comme par exemple la Lune qui tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Par mimétisme, l'homme a créé des satellites qu'il envoie dans l'espace tourner autour de la Terre. Par mimétisme, de ce mimétisme, président fondateur crée des partis satellites qu'il envoie dans l'espace classe politique gondwanais en se débrouillant pour que personne ne sache que c'est des partis satellites. La règle numéro un pour un bon parti satellite est que l'opposition doit croire que le parti satellite est un parti d'opposition. Il a le goût et la couleur d'un parti d'opposition, mais ça n'est pas un parti d'opposition. En effet, le jour, c'est un parti politique comme tout autre, mais la nuit, il reprend sa vraie nature de parti satellite, plus précisément un satellite espion. Quand tu regardes le ciel la nuit, tu peux voir le parti satellite hein, tout là-haut, brillant avec les autres étoiles. D'ailleurs, tu le prends pour une étoile, tu le prends pour un parti politique d'opposition. Mais la nuit, tu peux le voir bouger tout doucement. Il est en train de faire son rapport à l'astre autour duquel il tourne, c'est-à-dire président fondateur. Président fondateur qui en profite pour lui donner ses instructions. Et ses instructions sont simples. Assurer la victoire de notre leader bien-aimé. En effet, le parti satellite est loin de son astre, mais il est dans son giron. La force de gravitation le scotche à son astre. Il éparpille l'opposition, la maintient hors de l'orbite du Gondwana, suspendu en lévitation, jamais à l'abri de